Chapitre 3. Les mécanismes de défense, une protection contre la douleur.
Vivre dans un milieu familial dans lequel il ne se sent pas à sa place, mal aimé et mal compris, projette directement l'enfant, et plus tard l'adulte, dans un monde factice, peuplé de mensonges et de dissimulations. Psychologiquement, il apprend à mentir et à se mentir. Il va intégrer qu'il est le problème et que ses parents, eux, intouchables, sont tout à fait adéquats. Toute cette énergie employée à ne pas être soi-même est extrêmement anxiogène et expose pendant de longues années à un stress élevé. Pour tenter de contenir ce niveau de stress et l'intensité de l'inconfort intérieur, l'individu adopte un mécanisme psychologique inconscient appelé « mécanisme de défense ». Ce mécanisme consiste à opérer une déformation de la réalité pour maintenir l'équilibre de la personnalité qui se sent menacée intérieurement. Le phénomène a été décrit pour la première fois par Freud en 1895 dans la publication d'un livre portant sur ses études sur l'hystérie. Tout d'abord, considérés comme les symptômes psychopathologiques marquants de certaines maladies mentales, les auteurs se sont ensuite accordés pour dire que les mécanismes de défense sont présents chez tout un chacun, comme une réponse adaptée à l'atténuation de conflits intérieurs générant une source de stress. Il est donc tout à fait concevable de recourir ponctuellement à des mécanismes de défense et de s'en défaire lorsque le niveau de tension interne est diminué. Le recours à de tels mécanismes devient inquiétant et, à l'extrême, pathologique lorsque l'individu fonctionne exclusivement sur ce mode défensif. Utilisés de façon équilibrante, les mécanismes de défense sont des réponses spontanées adéquates qui visent à offrir une pause, sur le plan psychologique, lorsque la personne craint soudainement la menace de sa structure de personnalité. Cette pause permet ainsi de disposer d'un temps de réflexion, de prendre une saine distance pour analyser les émotions et les pensées associées à cette crainte et de rehausser le niveau de contrôle émotif pour retrouver une certaine stabilité. Ce processus réclame chez l'individu une force et une solidité intérieure auxquelles il conjugue une analyse efficace de la situation sur les plans intellectuels et émotifs. Chez l'individu névrotique, blessé dans l'enfance et en proie avec ses conflits intérieurs non résolus, les mécanismes de défense sont utilisés à l'excès et n'ont pas cet effet libérateur. Dans cette utilisation abusive qui dessert la personne, les mécanismes de défense deviennent des réponses automatiques, éloignant de la réalité et des vrais sentiments. Au lieu de réduire la tension interne, ils l'augmentent.
Conserver à tout prix une image positive de soi.
Le mécanisme de défense a également une autre fonction bénéfique, celle de permettre à l'individu un répit, le maintien d'un bon idéal du moi, c'est-à-dire le maintien d'une image positive de lui-même. Tout individu se forge un modèle intérieur, une projection de lui-même dans laquelle il se fait une idée de l'être idéal à devenir. Cet idéal se construit à partir d'un lent processus de socialisation dont le but est le développement de la personnalité. L'idéal du moi est donc la résultante d'identifications multiples, essentiellement à l'entourage et précisément aux personnes qui font l'admiration de l'individu et à qui il voudrait ressembler. En principe, dans l'enfance, le jeune garçon voudra ressembler à son père, mais aussi à plusieurs autres modèles masculins de son entourage qui suscitent en lui un vif intérêt. Évidemment, il en sera de même pour la jeune fille. Au final, l'idéal du moi est constitué de la synthèse de tous ces modèles. Chez l'adulte, cet idéal évoluera tout au long de la vie pour se transformer selon les réussites et les échecs, et selon les rencontres signifiantes, qu'elles soient du reste féminines ou masculines. Ainsi, l'idéal du moi revêt ce caractère positif et stimulant de projeter l'individu dans le futur par l'accomplissement de tâches diversifiées pour l'atteinte de plusieurs objectifs précis. Chez l'enfant dont l'entourage a été moins structurant, avec des parents et des adultes moins inspirants, la structure de personnalité est plus vacillante et l'idéal du moi ne s'est pas construit de façon réaliste. L'être intérieur projeté est extrêmement loin de ce que l'enfant peut atteindre. Ainsi, l'individu est toujours à courir après un idéal de lui-même qui est si loin devant lui qu'il le place dans une position permanente de dévalorisation. Les mécanismes de défense que je vais maintenant décrire sont tous issus de traumatismes dans l'enfance, d'un manque d'amour et de soutien qui a fait sa marque, comme une blessure qui ne se referme pas, et que l'individu cherche à panser, P-A-N-S-E-R, ou penser, P-E-N-S-E-R, perpétuellement.
Denis et Amélie refoule.
Amélie, 32 ans, affirme avec véhémence que, même si sa relation à son père et à ses frères a de tout temps été conflictuelle, elle a eu la chance d'avoir une mère très disponible qui a toujours pris grand soin d'elle. À la fois, elle décrit sans émotion une enfance douloureuse à cause de ses frères et de son père, peuplée de harcèlement incessant et pouvant dégénérer en agression physique. Si on la questionne quant aux interventions de sa mère qui vivait dans la même maison et était témoin de ses souffrances répétées, elle bloque, ne sait plus quoi dire. Elle est convaincue que sa mère l'épaulait, mais elle n'a aucun souvenir des interventions de celle-ci pour faire cesser la violence physique et psychologique quotidienne des membres de la famille. En fait, la conviction d'Amélie quant au caractère positif de sa relation à ses parents est illusoire et traduit plutôt l'expression d'un mécanisme de défense particulier, le refoulement. Le refoulement est présent chez tous, mais c'est son utilisation et la nature des contenus extrêmement diversifiés sur lesquels il opère qui en détermine sa nature névrotique. Ainsi, il peut aller de l'amnésie la plus totale de souvenirs passés à l'oubli de se réveiller un matin d'examen. Dans le cas d'Amélie, par exemple, il est intolérable pour elle de réaliser qu'en fait, sa mère ne l'a jamais défendue lors des agressions de son père et de ses frères. Son désarroi, sa panique et sa détresse au moment des actes de violence, elle les a occultés, relégués au plus profond de son inconscient pour ne pas en souffrir, et a refoulé tout autant la présence passive d'une mère complice par son silence. En psychothérapie, Amélie comprendra que l'agression de sa mère était moins apparente, mais tout aussi présente. Elle restait passive pendant les agressions, silencieuse dans une autre pièce, et adressait toujours à sa fille le même discours de banalisation de la gravité des situations quotidiennes. Qui est plus agressant ? Le parent qui violente ou le parent qui laisse faire sans s'interposer ? Si l'on cumule les refoulements au cours d'une vie, les symptômes de mal-être se cumulent aussi en état dépressif, en troubles somatiques divers, problèmes de sommeil, de digestion, prise de poids significative, en anxiété, en angoisse, en épuisement mental, en troubles sexuels, etc.
Louis projette.
La projection est un mécanisme de défense qui peut prendre des formes multiples. Par exemple, elle peut être présente dans une relation de couple où une femme accuse son conjoint d'infidélité alors qu'elle est bien celle qui a été infidèle ou ressent une forte impulsion de l'être. Le mécanisme de défense se manifeste selon un principe simple. Projeter sur d'autres personnes ses propres pensées, ses propres sentiments, ses propres émotions. Louis a été élevé par un père autoritaire qui l'impressionnait beaucoup et une mère absente surinvestie dans sa profession. Il se soumet à leur éducation tyrannique, se conforme à leur autorité, mais il se sent déprimé et anxieux. Écrasé par des images parentales fortes, il grandit avec une estime de soi extrêmement faible, a priori coupable de ne pas être à la hauteur des attentes parentales. Adulte, Louis est convaincu qu'il n'a pas grande valeur, qu'il lui sera difficile de garder un emploi et qu'il est condamné au célibat. Ses sentiments de culpabilité et d'infériorité, il les projette sur toute forme d'autorité, particulièrement chaque fois qu'il a un patron. Automatiquement, il a tendance à percevoir ses patrons, quels qu'ils soient, comme des êtres d'exigence excessive, méchants, aux demandes abusives, perpétuellement insatisfaits, à la limite dangereux, car il dispose du pouvoir de jugement et de décision de ce qui est bon ou mauvais. Le patron n'est pas vu par Louis tel qu'il est, mais bien tel qu'il le craint, c'est-à-dire intransigeant et dépréciatif, comme l'étaient ses parents durant son enfance. Toutes les actions de ses patrons passent à travers le filtre de son enfance meurtrie et sont perçues, a priori, comme blessantes et dévalorisantes. Louis se mobilise en permanence sur le plan psychologique, car il veut à tout prix éviter d'être pris en défaut. Dès qu'il sent pointer la critique, il ressasse le déroulement de la conversation, les remarques et les expressions de son patron. Il essaie d'imaginer ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il aurait dû faire. Il y réfléchit pendant des heures et a beaucoup de difficultés à poursuivre ses autres tâches. Il vit littéralement dans l'angoisse. Dans le cas de Louis, le travail de psychothérapie a consisté à l'aider à sortir de ce fonctionnement anxiogène de projection de son passé pour le ramener à la réalité actuelle de son présent. Ne plus se positionner comme un enfant et apprendre à interagir avec son patron en adulte. Concevoir progressivement qu'un patron, comme tout être autour de soi d'ailleurs, ne dispose uniquement que du pouvoir qu'on lui donne. Bien sûr, un patron détient le pouvoir de son statut et peut en user, mais il n'a jamais le pouvoir de remettre en question les fondements même de la personnalité d'un individu. Si tel est le cas, si un individu est démoli par son patron, il est juste de penser que le patron a révélé chez cet individu une fragilité et une vulnérabilité latente avec lesquelles l'individu lui-même n'était pas au clair. Cela n'a absolument rien à voir avec le patron. Je ne le dirai jamais assez, plus on accepte la vérité de son histoire, plus on en travaille les chaînons fragiles, moins on est à risque d'abus psychologiques.
Les parents de John dans le déni.
Se mettre la tête dans le sable semble être l'expression qui décrit le mieux le déni. Ce mensonge à soi consiste surtout à refuser d'accepter une réalité déplaisante ou de la transformer intérieurement pour qu'elle devienne plus tolérable. Le déni concerne très largement toutes les situations de vie qui impliquent le choc d'une réalité extrêmement chargée sur le plan émotif et qui menace l'intégrité psychologique de la personne. Petit garçon abandonné à sa naissance, John, dont les parents biologiques sont noirs, est recueilli par des parents adoptifs blancs. Il est élevé dans cette famille avec des frères et sœurs qui sont tous blancs et vit dans un quartier dont le voisinage est majoritairement blanc. John sait qu'il est adopté, mais ses parents ne lui disent rien de ses origines. À l'école, il fait régulièrement l'objet de colibés racistes de la part des autres enfants. Il rapporte ses expériences négatives à ses parents qui interviennent et font cesser les railleries. Il renforce John dans l'idée qu'il est comme les autres et ne font jamais mention de sa différence de couleur de peau. John grandit et atteint bientôt l'adolescence. Il part pour un camp de vacances à quelques kilomètres du domicile familial et fait la rencontre de sa première petite amie qui est noire. Il se sent très amoureux d'elle. Au cours de leur rapprochement, ils se font des commentaires mutuels sur leurs particularités physiques. En pleine découverte de leur corps, la jeune fille évoque sa couleur de peau. John ne comprend pas. Elle lui dit combien elle aime le noir si foncé, presque bleuté de sa peau. Il pense qu'elle plaisante, qu'elle se moque de lui. Elle est d'abord amusée, puis surprise de son sérieux, et littéralement insultée lorsqu'elle réalise, effarée, qu'il se croit tout bonnement blanc. John est en état de choc. Pour la première fois de sa vie, il prend conscience de sa couleur de peau. Il est soudainement submergé d'images, de souvenirs, de paroles qui prennent un tout nouveau sens. Les années qui s'écoulent ensuite feront l'objet d'une longue psychothérapie, au cours de laquelle John travaillera essentiellement la question de son identité. Ce qui est remarquable dans cette histoire est que l'on se retrouve au cœur de mon propos, le pouvoir extrêmement puissant des parents et les ravages de leurs mensonges aux enfants. Un pouvoir si fort qu'il peut réussir à faire croire au-delà de l'observable, faire croire à un enfant noir qu'il est blanc. On ne lui a jamais dit clairement « tu es blanc », mais on ne lui a jamais parlé de ses origines, de son histoire, de la culture de laquelle il est issu. Ses parents l'ont tellement dépersonnalisé que la couleur noire de sa peau n'a pour lui aucune signification, même s'il la voit tous les jours. Cette caractéristique ne crée pas davantage un sentiment d'appartenance au groupe des personnes de couleur noire.
Pascal rationalise, Vincent intellectualise.
Ces deux mécanismes de défense partagent un terrain commun dans la mesure où ils permettent de dissimuler les affects généraux pour mettre de l'avant la raison et la compréhension. Ainsi, avec la rationalisation, la personne justifie ses comportements, ses actions et ses sentiments par des explications basées sur une logique apparente. Pascal est systématiquement en retard, mais a toujours de bonnes raisons. Elle a constamment recours à des explications logiques pour justifier son incapacité d'être à l'heure. La circulation, la réception d'un appel important, un envoi de dernière minute, etc. C'est faux. En fait, la récurrence de ces retards traduit bien ce que je qualifierais plutôt d'agressivité passive, non déclarée ouvertement donc, avec laquelle elle cherche à atténuer une frustration déjà présente en elle, qu'elle fait payer à la personne qu'elle fait attendre, mais qui n'a pourtant rien à voir avec celle-ci. Le premier niveau d'analyse correspond à l'explication consciente qu'elle fournit. « Je suis désolé, ce n'est pas de ma faute, la circulation est terrible ». Le second niveau d'analyse, que masque la rationalisation, renvoie plutôt à des éléments internes de la personnalité de Pascal, qui tisse la trame inconsciente de l'origine de ses retards. Pascal est un être anxieux et colérique, qui gère mal son anxiété et n'exprime pas adéquatement sa colère. Ainsi, dans la répétition de ses retards, elle trouve le moyen d'évacuer une partie de son anxiété et de sa colère. En fait, elle est incapable de cesser ses activités suffisamment à l'avance pour se garantir d'arriver à l'heure. Cela va plus loin encore. Elle se sent mal à l'aise d'être à l'heure et considère carrément qu'être en avance est une pure perte de temps. Il est clair que la personne perpétuellement en retard se met à risque, car elle manque de respect à celui qui attend et le pousse à la confrontation, voire au rejet. Les comportements de retard traduisent un narcissisme malsain qui fait passer aux autres un message d'une rare condescendance. Qu'on m'attende. Le temps de tous est précieux. Et, par respect de soi, on ne devrait jamais attendre quelqu'un dont les retards se répètent. Après quelques minutes, on s'en va, tout simplement. Vincent est extrêmement brillant sur le plan intellectuel. Articulé et foncièrement à l'aise avec le monde des idées, il dispose d'un vocabulaire étendu et d'une vaste culture qui lui permettent de lancer des conversations pleines d'intérêt. Cependant, dès que la discussion évolue vers la sphère personnelle, plus émotive, Vincent décroche et part sur un nouveau débat d'idées. Vulnérable sur le plan émotif, l'individu initie donc ses rapports aux autres par le contrôle, en s'assurant que l'échange est toujours au niveau des idées et en bloquant toute possibilité de contact avec l'affectif. Ce mécanisme de défense est présent chez l'adulte, mais particulièrement chez les adolescents. Cette période de la vie est propice à cela, avec ses conversations philosophiques et morales interminables et son lyrisme exacerbé sur les grands thèmes existentiels, tels que la religion, la peine de mort, le racisme, etc. Bien sûr, l'adolescent se plaît à jouer avec les idées et à faire émerger son identité à travers l'expression de ses convictions. Mais dans tout cela, s'exprime aussi l'inconscient de l'adolescent. À naviguer dans le champ de ses idées vives et de ses constructions mentales, il s'offre, pour un temps, un répit et un contrôle momentané de l'envahissement de ses instincts, de ses pulsions et de ses affects. Dans ce mécanisme de défense qu'est l'intellectualisation, il faut voir surtout un mécanisme d'adaptation par lequel l'adolescent s'exerce à atténuer la force de ses émotions en surinvestissant ses fonctions intellectuelles. Je suis néanmoins beaucoup plus inquiet lorsque le recours à ce mécanisme de défense est systématique, et donc rigide, chez l'adolescent ou l'adulte. Il caractérise alors ces êtres qui versent perpétuellement dans les raisonnements pseudologiques, veulent toujours ramener les conversations à des débats d'idées et restent inatteignables sur le plan émotif. Ainsi, l'intellectualisation joue bien son rôle de mécanisme de protection et évite, par exemple, la peur panique d'un envahissement des émotions qui produirait un effondrement brutal de la personne, une décompensation. En apparence, ces individus semblent bien fonctionner, mais en apparence seulement. En profondeur, de tels individus sont cristallisés dans leur position de défense et à risque élevé de souffrir de troubles somatiques, de maladies donc, ou d'adopter des comportements sociaux inappropriés.
Pourquoi le mensonge à soi ?
Quels que soient les mécanismes de défense, nous savons maintenant que leur fonction principale revient à éviter les contacts avec les émotions fortes et les remises en question susceptibles de déstabiliser l'équilibre précaire de l'individu. Ces stratégies de protection contre un danger interprété comme imminent mettent l'individu à distance de la charge émotive qu'il craint et envers laquelle il se sent intimement vulnérable. Il y aurait donc des raisons à ce que l'on se mente à soi-même. A priori, se rendre la vie plus douce et être moins confronté à la douleur de ses manques. Pourtant, si les mécanismes de défense peuvent être utiles comme mécanismes réflexes pour donner un recul momentané à l'individu, dans une utilisation souple et stratégique, leur recours de façon systématique fige la personnalité et brime la maturité émotive, contraint dans une utilisation rigide. On peut certes se mentir pour un temps, mais pas pour la vie. Lorsqu'un individu est construit sur le plan psychologique, sa réaction première à une réalité intérieure difficile peut être la mise en place d'un mécanisme de défense, mais cela dure le temps de se stabiliser à nouveau sur le plan émotif. Le temps d'une transition, donc, pour produire ensuite une autre réponse plus élaborée et mieux adaptée.
Claire, la boudeuse.
Si Claire et Jean sont en désaccord, Claire a tendance à se fermer et à bouder. Même si Jean revient vers elle, Claire reste distante et a du mal à sortir de cet état. Il faut souvent attendre quelques heures, voire quelques jours, avant que la tension ne se dissipe. Jean en souffre et veut absolument aborder la question lorsque Claire est dans de meilleures dispositions. Sur un ton posé, il lui dit notamment qu'il trouve sa réaction difficile lorsqu'ils sont en situation de conflit. Voilà ce que quelques séances de psychothérapie nous ont permis de saisir de la dynamique de Claire et Jean. Claire confiera que c'est plus fort qu'elle. Lorsque la colère monte, elle doit s'en aller, elle ne veut plus rien savoir de Jean. Elle ne veut plus lui parler, elle veut seulement qu'on la laisse tranquille, et elle n'arrive pas à sortir de cet état de colère. Mais le pire pour elle, c'est lorsque Jean lui en reparle. Elle voudrait qu'il fasse comme si de rien n'était, qu'il passe à autre chose et qu'il ne lui montre pas combien elle est boudeuse. Elle voudrait qu'il la laisse se mentir. Au contraire, je pense qu'il est fondamental pour ce couple de faire face à la réalité de Claire et de s'entraider dans ce moment difficile. Les réactions typiques de Claire, en pareille situation, sont infantiles, car ce sont les enfants qui boudent, et le reconnaître serait déjà un grand pas en avant vers la résolution et le changement comportemental. La première réaction de Claire, lors d'une critique justifiée qui la touche, est de recourir au déni, mécanisme de défense, car la bouderie, dimension de sa personnalité mise à jour qu'elle n'aime pas, lui renvoie d'elle une image trop dévalorisante. La seule réponse possible à l'amélioration de la relation de Claire et Jean est que Claire grandisse et choisisse de faire face à sa réalité. Elle est dans le déni de sa colère et de sa bouderie. En thérapie, Claire apprendra à relativiser la gravité des situations de désaccord, à retrouver son calme dans un délai raisonnable et à refuser l'envahissement émotif au point de perdre le contrôle. Aujourd'hui, Claire est capable de dire à Jean qu'il a vu juste, plutôt que de se défendre et nier avec force. Elle peut s'excuser, ce qui n'arrivait jamais auparavant. Jean apprécie beaucoup ces changements qui rendent la relation plus souple et plus harmonieuse.
La résistance à la vérité.
Le mensonge à soi et les stratégies mises en place pour continuer de se mentir m'incitent à penser que l'individu lutte avec force pour ne pas être en contact avec sa réalité intérieure et les émotions associées. Cette force, je la nomme résistance, et dans le mensonge à soi, on est en pleine résistance. Les manifestations de résistance peuvent prendre des allures diverses et si subtiles qu'elles deviennent difficilement détectables. L'individu pourrait presque penser qu'il s'agit là tout simplement de son mode de fonctionnement, de sa façon d'appréhender la vie. Outre le recours aux mécanismes de défense, j'ai relevé une constante dans la résistance à soi, l'évitement de la solitude. Avec une attitude globale de mensonge à soi et de peur de soi, la personne est poussée inexorablement dans l'action et dans la stimulation pour éviter à tout prix de se retrouver avec soi. Elle fuit littéralement toute perspective de solitude et lorsqu'elle ne peut l'éviter, elle continue de se mobiliser l'esprit. Chacun a sa formule, une longue liste de tâches ménagères ou d'entretien, plusieurs cours à suivre après les journées de travail, des conversations téléphoniques interminables, des échanges à n'en plus finir sur les sites de rencontres, etc. Peu importe les actions ou les réflexions, ce qui domine est l'urgence de maintenir l'esprit occupé, ne pas être en contact avec soi et instaurer une distance face à une anxiété intolérable.